for me, look at me, go with me. Bye bye, blackbird. No one here can love and understand me. Oh, what hard luck stories they all hand me. Gonna pack my bag, strike light, I'll arrive late tonight.
Alors,
elle vient d'où?
Elle vient d'où? Elle est née quand? Où?
Dis-nous donc, tout.
Elle est née le 3 juin 1906, dans le Missouri, aux États-Unis. Freda Josephine McDonald est d'origine afro-hispano-américaine et amérindienne. Donc sa mère, Carrie McDonald, est une musicienne et danseuse ayant des origines afro-américaines et amérindiennes et c'est une fille d'esclave. Son père, probable, ce serait Eddie Carson, musicien druide itinérant, d'origine espagnole. Tous deux ont monté ensemble un numéro de chant et de danse, mais le père abandonne sa famille rapidement, en 1907.
Juste un an après.
Juste un an après la naissance de sa fille.
Cool.
Et il n'a pas reconnu Joséphine. Ensuite, sa mère va se marier avec un ouvrier, Arthur Martin, avec qui elle aura 3 enfants, Richard, Margaret et Willie May. La jeune Joséphine va passer une partie de son enfance à alterner école et travaux domestiques pour des gens aisés, chez qui sa mère l'envoie pour travailler et gagner un peu de sous. La famille est très pauvre, son salaire aide donc à nourrir la fratrie dont elle est l'aînée. Dès l'adolescence, elle s'initie à la danse et elle rejoint un trio d'artistes de rue, le Jones Family Band. Elle est mariée très jeune, parce que je ne sais pas si on peut dire qu'elle se marie très jeune, à 13 ans.
C'est elle qui a fait le choix.
Ouais, je sais pas. Le mariage ne dure que quelques mois et elle continue à gagner sa vie en dansant. Lors d'une tournée qui s'arrête à Philadelphie, Joséphine va faire la rencontre de William Howard Baker, qu'elle épouse en 1921, c'est-à-dire à 15 ans. Elle s'installe avec lui et elle prend son nom. Et à cette époque-là, elle va danser au Standard Theater où elle gagne $10 par semaine. Voilà un petit peu les débuts de Joséphine.
Voilà. Mais Joséphine voit grand. Alors, l'envie de danser à Broadway la pousse, tout juste à 16 ans, à quitter son second mari pour aller tenter sa chance à New York. Donc là, va essuyer quand même plusieurs refus, de la part notamment du directeur du Daly's, avant de se voir offrir un rôle sommaire. Mais du coup, à travailler comme tout ce qu'elle pouvait faire dans le théâtre, habilleuse, voilà, etc. Jusqu'à temps, eh bien, elle apprenait tous les rôles par cœur des artistes. Comme ça, elle se disait, s'il y a une opportunité,
je pourrais y aller.
C'est pour moi. Elle rejoint donc la troupe de la comédie musicale Shuffle Along, un spectacle populaire à la distribution entièrement noire. Au bout de 2 ans de tournée, elle s'associe aux Chocolate Dandies, qu'elle quitte à leur tour pour entrer au Plantation Club, où elle fait la rencontre de Caroline Dudley Regan. C'est une mondaine, épouse de l'attaché commercial de l'ambassade américaine à Paris, Donald Regan. Et elle voit en Joséphine Baker un grand potentiel. Et elle lui offre donc un salaire de $250 par semaine. C'est un peu mieux que les $10.
Ouais.
Si celle-ci accepte de la suivre en France, où Regan veut monter un spectacle dont Joséphine Baker sera la vedette et qui fera d'elle une star, la Revue Nègre. Alors là, je vous propose d'écouter une petite chanson qui s'appelle Paris, 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 hein, puisque du coup, c'est là qu'elle va atterrir.
Si j'aime la grâce, ne me demandez pas si j'aime Paris. Autant demander à l'oiseau dans l'espace s'il aime le ciel ou s'il aime son nid. Autant demander au marin qui voyage s'il peut vivre sans la mer et le beau temps. Autant demander à une fleur sauvage s'il en peut vraiment se passer de printemps. Paris, 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 c'est sur la terre un coin de paradis. Paris, 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 de mes amours c'est lui le favori. Mais oui, paradis, ce que j'en dis on vous l'a déjà dit. Et c'est Paris qui fait la parisienne, qu'importe qu'elle vienne du nord ou bien du midi. Et c'est aussi le charme et l'élégance et l'âme de la France, tout cela, mais c'est Paris.
Paris, Paris, Paris,
madame, c'est votre robe si jolie.
Paris, Paris, Paris,
c'est votre beau bijou d'un goût exquis. Mais oui, Paris, c'est aussi votre généreux mari. Mais oui, Paris, c'est votre boucle blonde qu'on sait le mieux du monde coiffée avec fantaisie. Mais oui, Paris, c'est votre beau sourire, c'est tout ce qu'on désire, tout cela, mais c'est Paris. Et c'est aussi le charme et l'élégance et l'âme de la France, tout cela, oui, c'est Paris.
Bon, une belle chanson sur Paris. Quelle ville merveilleuse. Bon, alors on va revenir sur la revue nègre. Donc Joséphine Baker et sa troupe vont effectuer la traversée New York-Cherbourg du 15 au 22 septembre sur le Berengaria. La première représentation aura lieu le 2 octobre 2025 et c'est là que l'artiste est révélé aux yeux du public français. Alors l'idée de cette revue, c'est un peu sur les conseils du peintre Fernand Léger et André Daven, administrateur du Théâtre des Champs-Élysées, décide de monter un spectacle entièrement exécuté par des Noirs. Voilà, donc le titre tout trouvé, La Revue Nègre. Et l'américaine Caroline Dudley compose la troupe à New York, constituée de 13 danseurs, 12 musiciens, dont Sidney Bechet. Et Joséphine Baker devient la vedette. Voilà. La prestation initiale du groupe d'artistes noirs étant jugée pas assez nègre par les commanditaires du spectacle, il est proposé à la danseuse américaine de se présenter nue sur scène. Joséphine Baker est allée, alors âgée de 19 ans, elle est d'abord indignée, et puis finalement elle a accepté de se produire seins nus, une ceinture de plumes à la taille, conformément à l'imagerie du bon sauvage africain en vogue dans l'Empire colonial français. L'incarnation par Joséphine Baker de cette femme noire, érotique et sauvage comme l'exigent les stéréotypes coloniaux et l'exotisme fantasmé du public français des années 1920 assure à la Revue Nègre un immédiat succès. Le spectacle se déroule à guichet fermé chaque jour. Enfin, l'artiste Paul Colline réalise l'affiche de la revue, qu'on peut voir d'ailleurs au Musée national de l'histoire de l'immigration. Joséphine Baker y apparaît dans une robe blanche ajustée, les poings sur les hanches, les cheveux courts et gominés, entre deux hommes noirs, l'un portant un chapeau incliné sur l'œil et un nœud papillon à carreaux, l'autre arborant un large sourire. C'est une œuvre à l'esthétique très art déco, un peu caricaturale dans ses traits, et qui parvient néanmoins, au moyen de ses déformations cubistes, à rendre perceptible le rythme syncopé du jazz.
Voilà, qui était une apparition récente à l'époque, hein, parce que voilà, c'était ouais. Un peu nouveau sur la scène française. Alors ben, là, on vous propose un autre petit chanson. Hein, donc, c'était J'attendrai. C'était J'attendrai le succès, peut-être. Ou... Alors, on va vous mettre la chanson. Hop, toc.
J'attendrai
j'attendrai toujours ton retour. J'attendrai car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe si court en battant tristement dans mon cœur plus lourd. Mais pourtant j'attendrai ton retour. Les fleurs pâlissent, le feu s'éteint, l'ombre se glisse dans le jardin, l'horloge tisse de son prélat. Je crois entendre ton pas. Le vent m'apporte des bruits lointains, guettant ma porte, je coupe en vain. Hélas, plus rien ne vient pour ne tornerai tu perché senza i tuoi baci languidi non vivrò. Oh, qui dentro ignoro la tua voce che dice tremando amor. Tornerò perché i tuoi sento il mio cuore. Le temps passe si court en battant tristement dans mon cœur. Et pourtant j'attendrai.
Rediffusion d'une émission de Principe Actif. Une rediff, quoi.
Voilà, donc une chanson d'origine italienne, hein, écrite par Dino Olivieri et Nino Rastelli. Donc on l'entend d'ailleurs, elle chante en français, mais elle chante en italien aussi. Donc, alors pour Joséphine, c'est arrivé en France et vécu comme une libération. D'ailleurs, elle dira à ce sujet, « Un jour, j'ai réalisé que j'habitais dans un pays où j'avais peur d'être noire. C'était un pays réservé aux Blancs. Il n'y avait de place, pas de place pour les Noirs. J'étouffais aux États-Unis. Beaucoup d'entre nous sommes partis, pas parce que nous le voulions, mais parce que nous ne pouvions plus supporter ça. Je me suis sentie libérée à Paris. » Alors Joséphine, après une centaine de représentations en France et à l'étranger, elle casse son contrat et accepte de signer en 1927 pour la première fois avec le théâtre des Folies Bergères, pour une revue où elle joue un des premiers rôles. Donc la revue s'intitule La Folie du jour. Alors il y a un danseur sénégalais, Feral Benga, qui joue du tam-tam. Elle porte des plumes roses et ceinture de banane, visible aujourd'hui au château des Milandes. Elle est accompagnée d'un guépard, souvent dont l'humeur fantasque terrorise l'orchestre et fait frémir le public. Alors Guipsep ouvre le club chez Joséphine et organise la tournée mondiale de la chanteuse en 1928. En fait, Giuseppe Abanito, c'était un tailleur de pierre originaire de Sicile, qui se faisait souvent appeler le comte. Et alors, il n'avait rien d'un comte, mais bon, voilà. Il fut souvent qualifié de gigolo, et sa liaison avec Joséphine Baker durera 10 ans, de 1926 à 1936, année où il est décédé d'un cancer. En plus d'être son impresario, il jouera le rôle de manager et sera son mentor pendant toute la période de son ascension. Il va la conseiller dans ses tenues vestimentaires, son maquillage, sa façon de marcher, son langage, enfin bref, il la façonne voilà, pour qu'elle devienne une star. Et donc c'est lui qui lui offre justement ce fameux guépard. Alors, dans le même temps, elle devient l'égérie aussi des cubistes qui vénèrent son style et ses formes et suscite l'enthousiasme des Parisiens pour le jazz et les musiques noires. À cette époque, elle rencontre également, bon ça c'est une anecdote, hein, mais elle va rencontrer Georges Siménon qui à l'époque n'est qu'un simple pigiste dans divers journaux et qu'elle engage comme secrétaire et qui deviendra son amant. Voilà. Bon. Donc, je vous propose maintenant d'écouter une autre petite chanson, hein, puisqu'on va on profite de mettre beaucoup de chansons, puisqu'on a une chanteuse. Alors, voilà, donc la chanson s'intitule « Sous le ciel d'Afrique », et c'est, comment ? Et elle est accompagnée par les Comédiens d'Harmonistes, qui était un groupe de chanteurs allemands. Voilà, et donc là ils chantent en français, hein, mais voilà. Donc le film s'appelle Princesse Tam Tam.
Notre âme noire en sa douleur.
Fermons les yeux, que tout se passe. L'espace redevable.
Dans le béni qui vit le soleil d'Afrique, sur les tropiques vies.
Sous le ciel d'Afrique, chaque instant semble meilleur qu'ailleurs, et pour nous tout est désir, plaisir. Au pays en force le
son appel magique, fait surgir devant nos yeux de jeunes, et des danses vont toujours l'amour, mais en rythme pénétré.
Voilà une chanson que je ne connaissais pas.
Bah c'est pour ça qu'il faut en trouver.
Mais... Ouais, c'est vrai que je pense qu'elle n'est pas très connue. Voilà, bon, bah, très jolie voix qui se croise. Après, c'est un style. Hein. Alors, de quoi on pourrait dire, parler un petit peu de ce que faisait par ailleurs Joséphine Baker, on peut en dire deux mots quand même, parce que bon, il y a le succès de la Revue Nègre, mais finalement le fait d'être connue, ça lui a permis de se lancer dans la chanson et le cinéma. On lui propose quelques rôles, Marc Allégret par exemple lui propose un rôle, elle tourne ainsi dans une dizaine de films, dont Zouzou avec Jean Gabin. Donc, Princesse Tam Tam, nous voilà, avons entendu la merveilleuse chanson.
Tu m'as l'air critique, là.
Je suis un peu dubitative. Je ne sais pas quoi en dire. Mais voilà. Bon, le Moulin Rouge aussi, ou encore La Sirène des Tropiques, dont la musique sert en fond sonore. Mais tous ces films ne rencontrent pas vraiment le succès espéré. On ne sait pas.
Ouais, c'est pas des chefs-d'œuvre du cinéma.
Ce ne sont pas des chefs-d'œuvre. On va dire que ce sont plutôt des œuvres mineures. Mais quand même, plusieurs de ces chansons deviennent des succès internationaux, comme J'ai deux amours que nous allons écouter
maintenant. Alors, on y va pour J'ai deux amours.
Décorder l'or des mers, là-bas sur le ciel clair, il existe une cité où séjour enchanté. Et sur les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours. Paris, par toujours, mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon nier ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Un jour, c'est mon rêve joli, les deux amours, mon pays Paris.
Elle monte haut. On a presque l'impression de voir Blanche-Neige entourée des petits oiseaux, voilà, en train de faire le ménage ou je ne sais quoi là.
Alors, bon, cette chanson est reprise hein, au Casino de Paris, dans la revue Paris qui remue, en 1930. Donc, c'est une chanson de Joe Cocker et d'Henri Varna, hein, sur une musique de Vincent Scotto. Alors, quand on écoute attentivement les enregistrements de l'époque, on se rend compte, en fait, qu'elle modifia le premier vers du refrain de sa chanson fétiche, « J'ai deux amours, mon pays et Paris », qui devint après la guerre « J'ai deux amours, mon pays, c'est Paris ». Voilà, subtil.
Ouais, ouais.
Alors ça va devenir sa chanson fétiche, hein, qu'elle va chanter à toutes, dans toutes les occasions. Voilà. Alors là, on va arriver dans la période de l'occupation, de la guerre. Elle devient française après son mariage en 1937 avec Jean Lyon, qui est un courtier en sucre industriel et qui va fonder d'ailleurs les bonbons La Piquichante. Et sa carrière et sa vie prendront donc un autre tournant, hein, durant l'occupation. Au début de la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1939, par le biais du frère de son impresario, Daniel Marouani, Joséphine Baker va rencontrer un officier de la section Allemagne des services de contre-espionnage français, donc Jacques Abdet, dont elle devient honorable correspondant. Ah, c'est-à-dire qu'elle devient une espionne, en fait. Hein, voilà. Donc elle rapporte donc à Abdet des informations qu'elle peut glaner dans les soirées mondaines. Elle met également son talent musical à contribution en chantant pour les soldats alors au front. Et elle participe également en tant que IPSA, c'est-à-dire infirmière pilote secouriste de l'air, affectée à la Croix-Rouge, à la réception des réfugiés belges et hollandais. Alors du 24 décembre au 17 janvier 1941, elle va jouer le rôle de Dora dans La Créole à l'Opéra de Marseille. Et en 17 janvier 1941, elle s'embarque sur un paquebot à destination d'Alger avec pas moins de 28 malles. Bon, vous me direz, il faut de la place pour mettre toutes les tenues de scène, hein, mais bon. Et des cages, hein, pour ses divers animaux, parce qu'elle a des chiens, singes, oiseaux, voilà, son guépard, voilà. Donc elle voyage avec toute sa ménagerie. Et puis, le temps de donner quelques galas à Alger, elle part pour Casablanca, au Maroc, pour obtenir un visa auprès du consulat du Portugal, où elle projetait de faire une tournée. Finalement, elle s'installe à Marrakech, d'abord à la Mamounia, puis dans le Riad de la Médina. À Marrakech, elle va fréquenter assidûment Si Mohamed Menebi, qui est le fils de l'ex-grand vizir. Ça fait rêver, hein.
Alors de juillet 41 à décembre 42, elle a séjourné à la clinique Mers Sultan à Casablanca à la suite d'une péritonite avec nombreuses complications. Elle reçoit à la clinique de nombreuses visites, dont celle des vice-consuls américains. Après sa maladie, Joséphine Baker se produit sur scène pour la première fois le 20 mars 1943 à Casablanca, lors de l'inauguration des clubs de la Croix-Rouge ouverts aux soldats alliés présents en Afrique du Nord, présents à la suite du débarquement de novembre 1942. Le club dans lequel Joséphine a donné son premier gala était réservé aux soldats américains de couleur, car la ségrégation raciale régnait au sein des armées américaines. C'était complètement... on ne pouvait pas passer outre, quoi. Et à la suite de ce premier spectacle, Joséphine est engagée au célèbre cinéma-théâtre de Casablanca, le Rialto, pour une série de concerts payants qui permettent de renflouer ses caisses et ainsi de survivre jusqu'à la fin de la guerre, car désormais, toutes les représentations qu'elle va donner vont être bénévoles.